Chapitre 9, Cartouche, l'ennemi public numéro 1 de la Régence. Pas moins de 6 pistolets attendaient sur le chevet du redoutable bandit lorsqu'il est arrêté un peu avant midi, le 15 octobre 1721. Heureusement pour les assaillants, il n'a pas eu le temps de réagir. Cet homme que la France entière recherchait est en effet pris par surprise grâce à la collaboration d'un de ses plus fidèles lieutenants. Au cabaret du Pistolet, cela ne s'invente pas, dans le quartier de la Courtille, entre Belleville et Ménilmontant. Le brigand n'a pas vu le coup venir. Assis sur le lit du cabaretier, il était occupé tout tranquillement à ravauder une culotte. On l'arrête donc, on le ligote et pour marquer l'opinion publique, on le fait marcher en chemise jusqu'au Châtelet, les mains liées et les pieds nus. Mais qui est-il au juste, ce Louis-Dominique Cartouche ? Le célèbre ennemi public est né à Paris 28 ans plus tôt, dans la famille d'un tonnelier d'origine allemande réputé pour sa droiture. Aîné de 3 garçons, il est loin de suivre les traces paternelles. Quoique admis au collège de Clermont chez les jésuites, établissement de la meilleure société, il s'y fait surtout remarquer par sa propension à chaparder. Du reste, il n'a pas 12 ans lorsqu'une correction trop sévère de son père l'amène à fuguer. La tradition veut qu'il ait alors croisé la route d'une troupe de tziganes et s'y soit fondu comme en un milieu d'élection. L'adolescent y apprend sans doute à jongler et à manipuler les cartes, à se faire détrousseur aussi. On le retrouve plus tard en Normandie, prêt à se faire mousse à bord d'un vaisseau, lorsqu'il est reconnu, étonnant hasard, par un oncle de passage à Rouen pour affaires. C'est ce dernier qui le ramène à Paris, chez ses parents, et lui offre une occasion inespérée de rentrer dans le droit chemin paternel. Apprenti tonnelier, le jeune Louis va se montrer un temps aussi consciencieux qu'il était enfant difficile et rebelle. Mais c'est l'amour qui, cette fois, va faire dévier sa nature instable. La jeune fille s'appelle Lison ou Lisette. Elle est jolie, peu farouche et surtout dépensière. On dit que c'est pour assouvir les désirs de sa belle que Louis aurait renoué avec ses mauvaises habitudes. Sa dextérité, écrit l'avocat et historien Henri Robert, sa dextérité était si merveilleuse que les bourses, les tabatières, les bonbonnières, les montres, les bijoux habilement subtilisés ne tardèrent pas à alimenter tous les besoins d'argent qu'il pouvait avoir pour contenter les désirs de Lisette. Le père Cartouche, pas aveugle, s'exaspère du manège de son fils aîné, et d'autant plus que, reconnu par un grand bourgeois qu'il avait dévalisé naguère et qui devait devenir son beau-frère, Louis fait échouer le mariage de sa sœur. Comme c'est alors l'habitude dans les familles troublées par un mauvais élément, le brave tonnelier réclame et obtient de l'administration royale une lettre de cachet ordonnant l'incarcération du jeune Tirelaine à Saint-Lazare. Reste à piéger l'oiseau, son père le fait monter dans une voiture de louage au prétexte d'une course urgente, Cartouche pressant la manœuvre et s'échappe tout juste avant d'atteindre la maison de correction, il n'y aura plus cette fois de retour possible. Enrôlé sous un faux nom comme laquais chez le marquis de Saint-Acre, il inquiète par la constance de ses gains à toutes sortes de jeux de cartes et se voit interdire l'entrée de différents tripots. Comment dès lors trouver de quoi vivre ? Contraint par la police à devenir indicateur, il se fait par la suite adjoint d'un sergent recruteur jusqu'à ce que celui-ci, profitant d'un soir d'ébriété, ne l'enrôle à son insu. Alors on voit le jeune homme faire contre mauvaise fortune bon cœur, espérant trouver sur les champs de bataille d'Espagne une respectabilité qui jusqu'alors lui a fait défaut. Il se montre courageux et habile au feu. La guerre achevée, Louis finit par rentrer au pays. Il rejoint alors parmi d'autres soldats congédiés une troupe de bandits opérant sur la Loire. Un soir de beuverie, son capitaine entre guillemets lui lance « Sais-tu, Cartouche, que tu pourrais arriver facilement à la tête de cette compagnie ? Figure-toi que je ne sais pas nager. Si tu me jetais au fleuve, j'y serais englouti très sûrement. Pourquoi donner de telles idées à un homme qui pourrait les mettre en application ?» Cartouche bascule le brigand dans la Loire. Ainsi devenu chef de bande, on le retrouvera bientôt à Paris, le Paris joyeux et désordonné de la Régence. Le système financier mis en place sur les conseils du banquier écossais John Law donne alors aux spéculateurs un sentiment de toute puissance. Quantité d'agioteurs attirés par l'appât du gain sont la proie d'aigres fins et de marlous. Pour un soldat congédié sans solde, au demeurant fort doué pour la combine, la tentation est forte. Recrutant sa propre bande de complices et d'hommes de main, Cartouche ne tarde pas à mettre sur pied sa petite organisation criminelle. Bien encadrés, bien commandés, ceux qu'on ne tardera plus à nommer les Cartouchiens seront bientôt 2000 et plus. Receleurs, trafiquants, mouchards viennent se joindre au gré des opérations juteuses, à cette armée du crime, ainsi que des intendants de fortune et même quelques chirurgiens complaisants. Bientôt, il n'y aura plus dans Paris de grandes maisons, d'hôtels fortunés dont les gens n'aient été plus ou moins subornés. Des complices se recrutent jusque dans le personnel des ministres ou du lieutenant de police. Le régent en personne ne fait-il pas les frais de larcin opéré sur ordre de Cartouche, au profit de Cartouche ? On comprend que l'ancien apprenti tonnelier, devenu grand personnage à sa manière, irrite les puissants et réjouisse les humbles. D'autant plus que la rumeur publique se met à lui prêter de beaux gestes envers la veuve et l'orphelin. Sans se faire justicier pour autant, et sans pouvoir prétendre au statut d'un moderne Robin des Bois, Louis s'impose, il est vrai, comme le vengeur naturel des laissés pour compte. On raconte entre mille anecdotes la mésaventure d'une vieille dame, la maréchale de Boufflers en personne, veuve d'un des grands capitaines du précédent règne. Un soir d'été, où elle se trouve seule en ses appartements, au premier étage de son hôtel particulier, près d'une fenêtre grande ouverte, un jeune homme svelte en profite pour sauter dans la chambre. On s'émeut. « Enfin, monsieur, que signifie « je ne vous connais pas »?»« Ah, pardon, madame la maréchale, mais certainement vous me connaissez, au moins de réputation. Je suis Cartouche et votre serviteur. » Oh, au secours! De grâce, ne criez pas, je ne vous ferai aucun mal. Je cherche seulement un gîte pour la nuit, traqué que je suis par la police. N'appelez pas, madame, ce serait inutile. Toute votre demeure a été circonvenue par mes hommes. Je vais donc me coucher dans le lit de veille de votre femme de chambre. Avant cela, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir sonner et de me faire monter par votre maître d'hôtel un quart de poulet froid et du vin de champagne. En attendant, je passe dans le cabinet d'à côté. » La vieille maréchale, interdite, croit raisonnable d'obtempérer. On apporte l'encas demandé, non sans un certain étonnement. Cartouche remercie sa discrète hôtesse, se montre joyeux et plein d'esprit. Trouvant toutefois le champagne ordinaire, il se permet de vanter celui qu'il a dérobé naguère dans les caves du financier Paris Duvernay. « Je prendrai la liberté, dit-il, de vous en faire livrer un panier de 100 bouteilles. » Ce qui, effectivement, sera fait après que le chef des bandits aura passé dans son lit d'appoint une nuit confortable. Le plus drôle est peut-être que, plus tard, l'histoire s'étant ébruitée, Paris Duvernay ait osé faire demander à madame de Boufflers son 100 de bouteilles. Elle refusera de les rendre, estimant les avoir bien gagnés et la justice lui donnera raison. Ce genre d'historiette, on s'en doute, fera beaucoup pour donner de Louis-Dominique Cartouche une image aimable et même charmante. C'est celle qu'a voulu conserver le cinéma, sous les traits facétieux de Jean-Paul Belmondo. La vérité oblige à dire, hélas, que de tels épisodes sont l'exception qui confirme la règle nettement moins agréable d'un bandit nerveux, cruel, sans état d'âme. Certes, une partie des agressions vise les enrichis et les parvenus de la Régence. Cela n'ôte rien à leur violence, ni à l'horreur qu'elles répandent. Devenu l'homme le plus recherché du royaume, Cartouche est d'abord arrêté en 1720 et conduit à la prison parisienne de Fort-l'Évêque, qui se trouve dans l'actuelle rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le premier arrondissement. Après avoir déchiré le procès-verbal de son interrogatoire, il parvient à s'évader à la barbe de ses gardiens. Encore un épisode assez joli. La procédure judiciaire en vigueur prévoit, en cas d'évasion d'un prévenu, ce que l'on appelle le cri public, une annonce légale clamée par l'huissier de la chambre criminelle en trois points distincts de la ville. Étant donné le caractère dangereux du fugitif, on a cru prudent cette fois de faire entourer le crieur public de tout un cortège en armes. Incroyable mais vrai, Cartouche se présente néanmoins en personne au carrefour de la Croix-Rouge et interrompt impunément la troisième déclamation. Il est vrai que le bandit bénéficie partout dans la population de tant de complicité. Pourtant, le temps passant, l'armée de Cartouche va perdre de son unité, de sa discipline. La nervosité du chef allant jusqu'à des crises de démence, on voit ses propres lieutenants se mettre à se méfier de lui et différer le soin de transmettre ses ordres. Le doute s'installe. Les échecs se font de plus en plus nombreux. jusqu'au soir fatidique où Cartouche et ses principaux complices vont se laisser encercler par négligence en la nasse de l'hôtel des Marais. Réfugiés dans le salon qu'ils ont barricadé, les cartouchiens y subissent un véritable siège. Certes, le chef va parvenir à s'échapper, mais la confiance qu'on lui témoignait diminue à vue d'œil. Cartouche, dépourvu désormais du peu de sang-froid qu'il possédait encore, va régner par la terreur. Il ne cesse de se venger des uns, de faire des autres un exemple. Un de ses principaux lieutenants s'appelle Duchâtelet. C'est lui qui, ayant été retourné par les forces de police, va venir trouver Cartouche en son antre de la Courtille. Pour autant, l'affaire n'est pas close, car notre homme trouve encore le moyen, avec la complicité d'un compagnon de captivité, de fuir sa cellule en passant par les caves. Trahi par l'aboiement d'un petit chien sur son passage, il est alors rattrapé par le guet, couvert de chaînes et remis sous les verrous. A-t-il à tout le moins perdu de sa superbe ? Au contraire ! Certainement persuadé d'être libéré sous peu par les siens, il affiche à la face des magistrats une morgue qui n'a d'égal que son refus de coopérer. Finalement condamné à mort, il doit être exécuté le 27 novembre 1721, après avoir subi les questions ordinaires et extraordinaires. Une déformation de l'estomac lui ayant épargné le supplice de l'eau, on va le soumettre à celui non moins atroce des brodequins, des planches qui, lentement serrées, broient les jambes du supplicié. En vain. Puis on le conduit, pour lui faire subir en public le supplice de la roue, à un grand échafaud dressé sur la place de Grève. Une foule grisée trépigne dans l'attente de l'ignoble spectacle à venir. C'est alors tout de même que l'on voit Louis perdre contenance. « Voilà un vilain aspect », déclare-t-il d'une voix blanche. Pour gagner du temps, il décide de parler. Il n'avait plus rien à attendre que la mort horrible, écrit Henri Robert, la mort ignominieuse. Alors, se voyant définitivement abandonné de tous, trahi dans sa dernière espérance, cet homme étonnant que ni la prison, ni la torture, ni les habiletés des juges, ni les objurgations de son aumônier, ni les supplications de sa mère en larmes n'avaient pu fléchir, cet homme soudain s'abandonna et, mû par la rage, déclara qu'il était prêt à faire des aveux complets, à livrer tous ses complices, des complices coupables à ses yeux de n'avoir pas tout tenté pour le délivrer. Les personnes citées par Cartouche sont immédiatement arrêtées chaque fois que possible et conduites devant lui pour une ultime confrontation. Ainsi va-t-il nommer, nous dit Barbier, une fort jolie fille qui était sa maîtresse, et il dit à son rapporteur, lorsqu'elle fut arrivée, qu'il n'avait rien à déclarer contre elle, que c'était pour la voir, l'embrasser et lui dire adieu. Finalement, le bandit sera roué vif, avec une journée de retard, devant une foule qui, malgré le froid, a tenu le pavé. On l'étrangle avant de le placer sur la roue, après quoi, plusieurs jours de suite, les aides du bourreau exhiberont son corps dans un baraquement spécial, faisant payer l'entrée 5 sols.